Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre et Patrick. Et le point cuisson de 20h avec la meilleure nouvelle de la semaine. Je n'ai rien à faire ce soir.
Pourtant, vous m'aviez beaucoup aidé.
Regardez, ils sont contents.
Vous aviez fait ça très bien. C'est pas parce que j'ai pas confiance en vous.
Oui, bien sûr. Alors, on y va, Julien.
Alors, on a un Saint-Pierre qu'on a poudré avec des petites algues, les mille feuilles de pommes de terre ici, et on a
dont des triangles avec du Beaufort.
C'est ça. Il y en a qui sont nature, il y en a avec du Beaufort. Et on a récupéré les joues des Saint-Pierre pour faire un petit tartare dans les bols là-bas.
Ce qui est magnifique. Avec des petites tuiles, des tuiles.
Exactement. Le même principe que vous aviez fait hier.
Voilà.
La même chose. Et ensuite, on va finir la sauce avec les petits œufs de truite. On a une sauce légèrement citronnée. On va mélanger le tout et assembler tout ça pour que vous puissiez déguster.
Merci Julien Raffanel, le chef du restaurant La Grande Georgette. C'est à Reims. Merci à vous.
Merci
et à
vous.
Demain.
À demain.
Enfin non, à tout à l'heure pour le dîner.
Tout à l'heure.
Et à demain par ailleurs. C'est un petit garçon qui a commencé à jouer de la batterie avec des cuillères en bois. Plus qu'une passion, une vocation, un véritable ensemble de percussions de pro pour ses 6 ans. Et une première scène à 13 ans seulement. Au Parc des Princes, s'il vous plaît, pour faire une surprise à son père.
Je me souviens que la batterie était 4 fois trop haute pour moi. J'arrivais à peine à la pédale de grosse caisse avec mon pied. J'étais sur la pointe, jouais presque debout. Mais je pense que l'inconscience de la jeunesse fait que tu t'en fous, quoi. C'est ça qui est génial. Moi, je regardais plus le public entre les tomes parce que j'étais petit.
Du coup, j'ai dit, tiens, c'est marrant, le batteur, il ne va pas comme d'habitude. Et je me retourne et c'était David qui était derrière moi.
Quand j'ai vu la tronche qu'a fait mon père quand il s'est retourné et qu'il m'a vu, je pensais que j'avais une crise cardiaque.
C'est pas rien d'être le fils de deux immenses stars de la chanson française, de se tracer un destin à soi, celui d'un chanteur, musicien, multi-instrumentiste, compositeur, mais aussi celui d'un pilote automobile, 4 fois champion de France catégorie Grand Tourisme.
Ça avait mal commencé avec une petite moto qu'on avait bridée, évidemment, mais il avait quoi, 5 ans? Il avait ses voitures mécaniques, évidemment, il était très heureux avec ses voitures mécaniques en tôle, avec les pédales, etc. Et puis après, pour finir, justement, avec des bolides, alors ça, c'est moins drôle, enfin, pour moi. Moi, non, je préfère qu'il chante.
Un documentaire inédit retrace lundi prochain sur Canal Plus Doc le parcours singulier de David Hallyday, réalisé par Éric Périssé et coproduit par deux hommes qui ont en commun bien plus que chacun un patronyme célèbre. David Hallyday et Paul Belmondo sont ce soir nos invités.
C'est Paul dont je parlais.
Ah, bonsoir.
Salut
bonsoir.
David, bonsoir. Salut bonsoir. Paul. Bonsoir. Bah bien, bonsoir. On est ravis de vous accueillir.
Merci, bonsoir.
Bonsoir Paul, bienvenue sur le plateau, c'est à vous.
Bonsoir. Bien.
On est ravis de vous accueillir, à l'occasion de rappeler que vous avez chacun un paquet de cordes à vos arcs respectifs. J'ai rappelé tous vos métiers, David. Paul, vous savez, pilote automobile, aujourd'hui consultant. Mari de Luana, père de Victor.
Oui.
ça, c'est deux belles lignes dans le CV. Mais aussi réalisateur et producteur de documentaires. Autant de raisons, David, de confier à Paul la production
Absolument.
De ce film très personnel.
Exactement, oui. Oui, oui, bah, on a pas mal de choses en commun, la compétition. On est potes, déjà, depuis longtemps. Et voilà, il est venu, ben, je sais pas, tu veux peut-être raconter
En fait, j'avais envie de faire un documentaire sur David, mais sur l'automobile, donc un domaine que je connaissais bien. Et j'avais envie justement de montrer cette passion. Et puis en discutant avec lui, il m'a dit, ouais, mais moi j'étais en train de discuter pour faire un doc sur moi, et pourquoi pas, on ferait pas les deux. J'ai dit, bah, allons-y.
Et puis c'était le bon moment de vous raconter, David.
Je sais pas si y a un bon moment, oui. Je trouvais que, en fait... Je trouvais l'idée sympathique de laisser des traces chez moi déjà, mes enfants, mes futurs petits-enfants, et si un jour ça les intéresse de savoir ce que leur grand-père ou arrière-grand-père faisait, ben, y a une trace et je trouve que c'est important au niveau de la transmission. Donc oui, j'étais prêt, puis je vois, c'est très actuel, maintenant je vois beaucoup de jeunes artistes avec 4-5 ans de carrière, faire des documentaires, je me suis dit, bon, pourquoi pas, au bout de 36 ans,
je suis légitime. Ouais. Et puis, vous ouvrez la boîte à archives, on découvre des images familiale, des films en Super 8, vous petit en voyage en Égypte, où c'est très mignon parce que vous vous trompez, vous dites bah, « ces pyramides sont du 18e siècle » et on entend gentiment votre maman corriger « non David, pas tout à fait, on voit en pique-nique à la montagne » lire un très joli texte d'ailleurs qu'on entend à la fin du documentaire avec cette phrase-là « pour entendre teinter la clé du bonheur, il faut prendre le temps de la fabriquer ». Je trouve que ça résume bien un peu le parcours que vous racontez.
Oui, c'est le parcours d'une vie avec des expériences. Voilà. C'est, en fait, j'avais envie de montrer aussi comment je m'étais formé autour de la musique. Et chaque, on va dire, image personnelle que l'on montre a une histoire musicale derrière. Ce n'est pas simplement pour montrer des choses dans le domaine de l'intime et privé, c'est qu'il y a une histoire toujours derrière musicale, parce que c'est
votre vocation
chez moi. Et donc, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, c'est pour raconter des choses. Donc, il y a...
En écoutant Led Zeppelin, hein. C'est ça qui vous...
Ah, entre autres, oui.
C'est ça, l'amour de la batterie. Et vos musiciens disent que vous cogniez comme, comme une bête sur votre batterie et qu'ils vous voient comme un gamin
en
encore
temps.
Maintenant. vous portez quel regard sur le parcours de David? Un regard fraternel, quasi?
Fraternel, amical. C'est pas facile de faire un documentaire sur quelqu'un qu'on connaît bien et surtout de tomber dans le piège. Ce que j'ai toujours, c'est de faire un documentaire béni oui-oui. C'est-à-dire que si on fait un documentaire, on ne parle que positivement de la personne et qu'on ne fait que lui cirer les chaussures, très vite, on s'ennuie, ça ne devient pas intéressant. Et c'était difficile aussi pour David de s'exprimer et d'ouvrir justement un peu plus et de dire des choses qu'on ne connaissait pas de lui. Donc, mais en tout cas, je suis content parce que j'ai appris beaucoup de choses.
Oui, on apprend
avec lui,
beaucoup,
on apprend beaucoup
de choses.
Sa mère, sa sœur, Tony Scotti, tout le monde a joué
Tony
le
Scotti,
jeu.
Tony Scotti, son beau-père, l'époux de Sylvie Vartan, producteur.
Et en fait, c'était d'arriver justement à faire quelque chose d'intéressant, mais de pas voyeuriste non plus, parce que ça aussi, c'est pas intéressant.
Là, vous êtes réunis sur un plateau. C'est pas toutes les 5 minutes que vous êtes tous les deux réunis sur un plateau. La première fois, c'était en 1988. Et le journaliste qui vous recevait était assez fier de vous réunir.
Est-ce que, aussi bien toi avec Jean-Paul, ton père, et toi avec Johnny, et ton môme, vous leur avez demandé de ralentir un petit peu?
Bon, mon père, d'abord, lorsqu'on était avec lui en voiture, ne roulait pas vite sur la route. Ouais. Les seuls moments où il nous faisait faire des petites choses, c'était bon, sur des chemins de terre. On lui demandait de nous faire des petits états-queues comme ça.
Donc t'as jamais eu peur en voiture avec ton père?
Non, jamais.
Et toi,
non.
David?
Ben, moi...
Réponds franchement, attention, sinon t'en prends une, hein. Attention, hein.
Non, en fait, jamais, non. Mon père a toujours été quelqu'un qui roulait relativement vite. Donc, et puis bon, moi, comme j'aime la vitesse, ça ne m'a jamais gêné.
Une passion commune pour la course automobile.
Tout va bien.
Et un papa prudent et un autre un peu moins prudent, mais tous les deux, ce même amour de la vitesse.
La course automobile, la passion des voitures, Paul, ça vient de loin, puisque votre père vous a appris à conduire, vous aviez 10 ans.
Oui.
Sur une mini-moque,
hein,
ces petites voitures sur un châssis de mini qui sont épatantes, qui se vendent des fortunes aujourd'hui d'ailleurs. Et votre père a suivi de près votre carrière de pilote avec fierté et fébrilité. Regardez, c'est une très belle archive.
Septembre 85, Grand Prix de Formule 3 Albi et première victoire de Paul Belmondo sous les yeux attentifs de son père.
Très content et très ému parce que c'est sa... cette année sa première victoire. Il a très bien couru, mais j'avoue que pour les nerfs, c'est très dur. Hein.
Ça a été dur pour vous autant que pour lui, presque.
Oui, je crois que c'était aussi dur pour moi. Moi, qui d'habitude, quand je fais des choses, j'ai jamais les jambes en coton. Là, je les ai eues toute la course.
Vous pensez que le fait que vous soyez là l'a motivé?
Oh ben, ça doit le motiver, mais enfin, je crois que même si son père n'était pas venu, il aurait gagné.
Vous savez, quand vous gagnez et que votre père est là, surtout que c'est la première fois qu'il venait à une course, je suis content d'avoir gagné devant lui.
Génial. L'alarme qu'on vient de voir, Paul, c'est pour la victoire ou c'est pour les yeux et la présence de votre père?
C'est les deux. C'est l'émotion de la première victoire, bien sûr. C'était un moment important pour moi et c'était aussi très important que mon père soit là et que j'ai pu le faire sous ses yeux. Donc, il pouvait voir ma réussite ce jour-là et j'étais très, très fier qu'il soit là. Mais il venait souvent sur les courses. Hein.
Ouais. Ouais.
Ça se passait pas toujours comme ça, mais il était toujours là. Ouais.
Non, mais là, c'est d'autant plus émouvant.
Ah bah oui, non, bien sûr.
Je connais son côté casse-cou et il explique qu'il a les jambes en coton en vous voyant courir. C'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire. C'est touchant de voir voilà, qu'il avait peur pour moi. Mais d'autant plus que ce circuit-là, en 83, j'ai eu un accident très grave et il était venu me voir à l'hôpital.
C'est Albi.
À Albi, oui. Donc pour lui, je pense que c'est la raison pour laquelle il avait les jambes en coton, oui.
Votre rêve à vous, David, c'était de courir les 24 heures du Mans. Je crois que vous y avez participé 5 fois.
Un peu plus, 8.
8 ?
Oui.
8 ? J'ai dit 8.
Vous avez dit 8, c'est ça.
À avec, enfin, c'est pas toujours hyper bien passé, et notamment dans le documentaire, on voit un moment où vous sortez avec des pneus froids alors qu'il pleut. C'est pas... Et j'ai mal résumé ?
Non, 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 c'est presque ça, c'est presque ça. C'est un peu technique, non, mais c'est pour ça. Non, mais vous faites très bien, non, mais.
Et vous êtes derrière la voiture, voilà.
Non, 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 j'aime bien le...
Oui, oui, la petite voiture. Et en fait, vous avez un accident. On a l'extrait et vous nous expliquez pourquoi vous en êtes beaucoup voulu à ce moment-là.
Oui. Alors, oui, effectivement,
mais... la surprise. Non, c'est pas ça. Que l'on peut non, être star et bon pilote. Sur la piste, je suis là en tant que sportif et je suis là en essayant de faire le mieux de moi-même et de faire la meilleure place possible à l'arrivée.
Non, c'était pas cette course-là. Mais racontez-nous ce qui s'est passé.
Non, mais celle-là était pas mal aussi, je viens de la redécouvrir.
Celle-là, vous l'aviez gagnée, ouais.
Alors, c'était en 2016, je crois. Et je courais pour une grande écurie chez Oreca, en sport proto, en LMP2. Et c'est vrai qu'on menait la course dans notre catégorie jusqu'à 6h du matin. Et aux 24h du Mans, généralement, au petit matin, il y a la rosée du matin, et là, il avait plu. Donc, et j'étais toujours en slick, enfin, tout le monde était en slick. Et donc, j'ai appelé à la radio pour qu'on puisse rentrer et changer les pneus, mettre les pneus pluie. Et donc, on m'a dit qu'il fallait que je reste derrière. Donc, je suis resté 2-3 tours. Et puis, 2-3 tours au Mans, ça fait des kilomètres. Et je leur ai dit que la voiture, elle tenait plus, même à 60 km/h, elle tenait plus au sol. Et on a toujours exigé, voilà. Et je leur ai dit que j'allais me planter, je me suis planté. Et je m'en suis voulu pour ne pas avoir, on va dire, contredit la décision.
Pas vous être imposé ce jour-là.
Exactement, mais c'était très compliqué, vous savez. C'était très compliqué parce que c'est 24 heures du Mans, c'est la plus grande course d'endurance au monde. Et puis Hugues de Chonac, que je salue d'ailleurs, si jamais il regarde ce soir, qui est un très très bon patron. J'avais pas envie de le contredire et malheureusement c'est tombé sur moi et j'ai fait perdre on va dire l'équipe et ça a été un traumatisme pour moi parce que il y a toute une équipe derrière et il y a une vingtaine de personnes et tu n'échoues pas toi seulement, c'est tout le monde derrière, c'est toute l'équipe qui échoue aux 24 heures du monde, donc j'en ai fait des cauchemars et puis voilà, mais en même temps ça m'a servi, ça m'a construit pour la suite. Et ça a été plutôt, aujourd'hui, je regarde ça comme une expérience par laquelle il fallait passer.
Elles sont magnifiques, les images de course. On comprend tout, je l'ai très mal expliqué, mais on comprend très bien, même quand on n'y connaît absolument rien en course automobile, ce qui est mon cas. Mais on découvre aussi beaucoup d'autres images dont on parle longuement dans un instant, juste après l'œil de Pierre.
Le président de la République a donc donné une interview au journal PIF pour le 75e anniversaire de la naissance de PIF le chien. Il est essentiel, comme toujours en politique, n'est-ce pas Patrick, de contextualiser. Faut rappeler l'histoire, c'est un peu l'histoire de ma vie, parce que je suis le plus âgé ici, je suis né en 45, à peu près en même temps que le journal Vaillant, qui était un hebdomadaire pour les enfants de parents communistes. Chez moi, on lisait l'UMA, et mes premiers exercices de lecture, ce fut la bande dessinée qui sortait dans l'UMA, PIF, le chien, on la voit là à l'écran. Richard Médioni, longtemps rédacteur en chef de PIF Gadget, racontait cette première apparition de PIF dans l'UMA.
Le premier strip de PIF le chien dans l'UMA, c'est assez émouvant parce que c'est un personnage qui tout de suite a tout le côté PIF qu'on va lui connaître. C'est-à-dire, il est malin, il se fait chasser continuellement par l'autorité.
Je vous rappelle qu'à l'époque, le Parti communiste fait 25% des voix et l'UMA tire à 600 000 exemplaires, ce qui fait que PIF est instantanément une vedette nationale. Son créateur s'appelle José Cabrero Arnal. Comme tant d'autres, il a fui le franquisme et il est arrivé en France en 1939. On ne lui a offert qu'une place dans un camp et comme 500 000 de ses compatriotes républicains espagnols, il sera arrêté par les nazis et survivra à 4 ans au camp de Mauthausen. Il revient à Paris. Et l'UMA lui demande de remplacer le personnage de Félix le chat, qui était dans l'UMA tous les jours. Mais l'UMA se disait, la guerre froide commence, il ne faut pas un personnage trop américain.
On m'avait demandé de supplanter une bande qui sortait dans un quotidien. C'était une bande dessus avec Félix le chat. Il m'avait dit de faire autre chose différente. Alors, j'ai pensé que le plus différent d'un chat, c'est un chien. C'est seulement ça vient de la forme du nez. C'est un homme qui est bref, qui accroche, pif.
Eh oui, ça accroche, pif. Pif le chien devient si populaire qu'il va rejoindre dans le journal Vaillant deux autres personnages de son créateur, Placide et Museau. Voilà la une, on est à Noël 1952. Vaillant, comme Tintin ou Spirou, accueillera toute la nouvelle génération des dessinateurs de BD, mais plus ça va, plus Pif est le personnage le plus populaire.
Quand il était dessiné par Arnal, ce n'était pas le même Pif que lorsqu'il était dessiné par Roger Mas, ou par Michel Motti, ou par Dimberton, ou par Cortegiani, ou par Rachid Nawa.
Et quand les ventes baissent, les éditeurs créent Pif Gadget. Et là, ça commence à concerner plus de monde. Tout le monde s'en souvient pour votre génération. À commencer par Patrick, qui, je crois, dans ses caves, doit avoir 3 ans de collection
Toute
de
la
Pif
collection
Gadget.
Depuis le numéro 1.
Absolument. Dont le numéro, le fameux numéro des pois sauteurs mexicains, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires.
Autre conquête des sciences naturelles au service du CAGJET, ces pois sauteurs, qui s'agitent sans fin comme mus par une force magique. En fait, ce ne sont que de petites prisons à l'intérieur desquelles se débat une chenille.
C'est une plante sauvage, si vous voulez, qui ne pousse que dans le nord du Mexique, dans l'état de la Sonora.
On peut vous demander combien vous avez dû comme ça, acheter de pois sauteurs ?
10 millions. 10 millions de pois sauteurs, oui. Enfin, nous en avons utilisé 5 millions environ. Et nous avons les 5 millions ici pour des objets de promotion qui sautent dans la cave actuellement.
Alors il y a eu les pois sauteurs, il y a eu l'avion équilibriste, les jumelles pliantes, un stylo à encre invisible et la machine, j'adorais celle-là, la machine à faire des œufs carrés. Comme tous les magazines pour enfants et le développement des émissions pour enfants à la télé, les ventes ont baissé, Pif s'est arrêté avant d'être relancé récemment en trimestriel. Pour son 75e anniversaire, Pif a donc eu un président de la République, on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, et aussi un timbre qui vient de sortir, un timbre à son effigie, à l'effigie de Pif le chien. Moi, je dis merci à Jean-Luc Muller, prix Nobel de pifologie, qui nous a confié quelques éléments de choc de son document.
C'est bien le prix Nobel de pifologie.
Bah tiens.
On vient de l'inventer. On se retrouve juste après le vu avec David Hallyday et Paul Belmondo.
Ce matin à 11h, jour de la 10e mobilisation contre la réforme des retraites, 10 photos ont été postées par la photographe officielle de l'Élysée. 10 photos postées donc sur son compte Instagram. Voici la première photo, voilà, donc ce matin à 11h. Cette photo est envoyée, photo en noir et blanc, le président est en col roulé.
Dans sa jeunesse, il a lui aussi rêvé de pouvoir et fait preuve d'ambition. Au fil du temps, il s'est fait des alliés et des ennemis avant de réussir à se hisser au sommet de la hiérarchie.
Et mon poignet, tu l'aimes mon poignet ? Oui, beaucoup. Et mon visage aussi.
Le problème qu'on a aujourd'hui avec le président, c'est que il est dans une hyper-présidentialisation et il est totalement coupé du peuple. Il n'a aucune idée de ce qui se passe.
La mobilisation était en repli pour cette 10e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Ils étaient 740 000 à défiler selon la police, 2 millions selon la CGT. L'explosion de violence redoutée n'a pas eu lieu. Les syndicats donnent à nouveau rendez-vous jeudi 6.
Ce matin, les leaders de la CFDT et de la CGT proposent au gouvernement de suspendre la réforme quelques semaines et de mettre en place une médiation menée par une, deux ou trois personnes.
On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. On peut se parler directement.
Ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter, par exemple, des retraites.
Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond.
Cet après-midi est tombée une invitation à l'intersyndicale de la Première Ministre. Mais quelques minutes ou quelques heures, à peine une heure peut-être, après que Olivier Véran ait balayé notre proposition.
C'est la toute première fois que la colère devance l'inquiétude. Pour cette institut, ça montre que les Français ne sont pas résignés. On voit dans le détail de cette étude qu'après 2/3 d'entre eux qui sont toujours majoritairement opposés à cette réforme, qu'ils ne jugent ni nécessaire ni utile.
Une colère générale contre déjà la politique de notre gouvernement, la gestion climatique, de féminisme, et enfin c'est vraiment très très général aussi.
Ah, il y a un tweet qui a beaucoup fait réagir, Bruce, je vous le cache pas, c'est celui des jeunes avec Macron qui dit « Faites l'amour, pas la grève, regardez, plus de 4 millions de préservatifs remboursés pour les moins de 25 ans depuis le début de l'année, si ça, c'est pas du concret ».
On vient de voir justement, on voit encore le gaz lacrymogène jeté sur les manifestants.
Ok, ce qu'on fait, lieutenant, vous prenez dans cette direction, vous prenez dans cette direction. Okay. S'il y a des groupes de plus informes, s'il y a des jets de projectiles, vous allez à l'impact. Mais ensemble, reçu.
Plus de 150 000 signatures à cette heure récoltées en quelques jours pour réclamer leur dissolution. Énorme. Pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale. Si les 500 000 signatures sont atteintes, cette pétition pourrait donc faire l'objet d'un débat au sein de l'hémicycle.
J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres.
Et si on n'a pas des unités, j'allais dire, de voltigeurs comme ça, extrêmement rapides, on ne peut absolument pas...
Mais là, pardon, Rosine, mais les voltigeurs, on les a dissous dans les années 80, après la mort de Malik Houssouline.
L'ultra-gauche ne veut pas attaquer la réforme des retraites. Elle veut attaquer la République. L'ultra-gauche ne veut pas attaquer le gouvernement. Elle veut attaquer les policiers. Et ça fait 8 groupuscules ou associations d'extrême-gauche que je propose à la dissolution.
Quand des individus venus pour en découdre blessent les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, ils portent atteinte à l'ordre public, oui. C'est indubitablement condamnable.
On est là et on résiste, on est là et on résiste.
Mais quand des citoyens, des étudiants, des travailleurs venus exercer paisiblement leur droit de manifester sont malmenés par ceux-là même qui étaient chargés de les protéger, c'est l'État démocratique qui vacille. Et notre contrat social qui est en danger.
Des tirs ont transpercé la porte d'entrée. La vidéosurveillance montre une personne lourdement armée qui ouvre méthodiquement chaque porte pour tuer. 3 enfants de 9 ans et 3 adultes dont la directrice sont décédés. Seule l'intervention rapide de la police a évité un carnage encore plus important.
Les sièges de grandes banques françaises ont été perquisitionnés ce matin lors de la plus vaste opération jamais organisée par le parquet national financier. Elle a mobilisé 150 enquêteurs et 16 magistrats. La Société Générale, BNP Paribas, Natixis font partie des établissements visés. Ils sont soupçonnés d'avoir fraudé pour permettre à leurs clients à l'étranger de ne pas payer d'impôts sur les dividendes.
1, 2, 3.
Normalement, quand un client étranger détient des actions d'une entreprise française, chaque année, il touche des dividendes, de l'argent versé par l'entreprise à ses actionnaires, sur lequel l'État français prélève une taxe, entre 15 et 30%. Pour éviter cette taxe, l'investisseur transfère ses actions avant le versement des dividendes à une banque française. C'est alors cette dernière qui touche l'argent, mais elle est exonérée de taxe. Ensuite, les actions sont rendues à leur véritable propriétaire. Une enquête en France, mais aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. Au moins 140 milliards d'euros auraient ainsi échappé au fisc de plusieurs pays, 1 milliard en France.
Pardon, je m'étouffe, c'est la fin de ce journal réalisé. Pardon. Dans des conditions particulières.
En 1989 sort Cadillac, le 36e album studio de Johnny, avec comme titre single Mirador, paroles signées Étienne Rodagil, mélodie David Hallyday.
Je voudrais vous dire que ce soir, vous êtes venus applaudir le meilleur.
Avec le meilleur des fils.
Ah, super.
C'est ces moments-là où vous partagez la scène avec votre père sont à chaque fois incroyablement intenses. Vous racontez dans le documentaire la genèse de cette chanson. C'est un titre que vous aviez composé pour vous.
Oui, longtemps avant ce moment-là, oui, c'était une chanson en anglais qui s'appelle To Have and To Hold, qui était dans mon deuxième album, en fait. Et il était venu à Los Angeles pour nous voir. Et il avait écouté ce titre et dit ah, « il me faut ce titre » et tout. Donc l'histoire a commencé comme ça, sur ce titre.
On voit dans ce documentaire l'importance de votre beau-père, dans votre, l'importance dans votre carrière de musicien et de chanteur. Sans lui, vous ne seriez, vous seriez pas lancé. Et c'est lui qui arrive à vous convaincre à vous mettre à la guitare. Et c'est un instrument que vous ne vouliez pas toucher. C'était non, celui de votre père.
Ouais, c'est pas que je voulais pas le toucher, c'est que j'ai batteur déjà, et pianiste, synthé, tout ça, et je composais déjà mes chansons, voilà. Et la guitare, pour moi, c'était pas quelque chose d'essentiel à cette époque-là. Et bon, il avait raison de me pousser, il m'a un peu charrié, il m'a pris un petit peu...
Il vous a dit, si t'apprends la guitare, je te paye ton permis de conduire.
Ouais, c'est ça.
Ouais, voilà, et donc...
C'est ça, et donc, qui l'aurait pas fait.
Exactement.
Il m'a dit, si tu joues pas le... si tu arrives à jouer le solo de Chuck Berry en un mois, donc voilà, donc
Mustang, je vais te faire une Mustang.
Qui ne le ferait pas.
Exactement. Mais au moment de choisir votre nom de scène, là, c'est Johnny qui a eu le dernier mot.
Oui, enfin,
vous
je
vouliez David Smith et il vous a dit non, faut s'appeler David Hallyday, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, il m'avait dit si ça n'a pas été si Smith n'était pas assez bien pour moi, je vois pas pourquoi ça le serait pour toi. Donc je préférais, voilà. Et puis de toute manière, on m'a appelé. Écoutez, on est très basé sur les noms, donc bon. Moi, je dis, appelez-moi comme vous voulez, finalement. non, mais je rigole, mais ça m'a suivi, en fait, depuis ma naissance, en fait. Donc, ça a toujours été comme ça.
Un mot encore sur la scène que vous partagez avec votre père. Vous expliquez que ces moments-là, c'était les seuls où vous aviez votre père pour vous, malgré les 15 000 personnes qui étaient là, quoi.
Bah oui, en fait, c'est très bizarre, le sentiment, parce que de travailler avec un proche en public, c'est quelque chose d'assez étonnant au niveau de la sensation, en fait. Parce qu'on se connaît forcément tellement bien, et puis il y a tout ce monde devant. Puis le Parc des Princes, en plus, c'est pas une petite salle. Donc c'est, et finalement, on est dans une bulle et on voit personne. C'est assez incroyable, en fait, comme sentiment. Et ça, c'était uniquement quand c'était avec lui, quand on était tous les deux. Ça ne se passe pas comme ça normalement, mais quand on était tous les deux, c'était... c'est un petit peu comme si ces moments d'intimité... était réservé pour nous, quoi.
Les premières années de votre vie, vous le rappelez dans le documentaire, ont été rythmées par la folie médiatique qui entourait vos parents, des gens en bas de chez vous, qui les interpellaient.
Vous racontez tout le documentaire, là.
Non, je le dis très vite. Et jusqu'à ce que votre mère dise un peu stop, et on découvre notamment cette archive, je ne l'ai jamais vue, ça se passe sur Europe numéro 1, on est à la fin des années 60, et une auditrice interroge votre mère et lui dit... Quand même, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà quelle est la réponse de Sylvie Vartan.
C'est quand même le proverbe respectable. Pour vivre heureux, vivons cachés.
Mais vous avez entièrement raison, madame. Enfin, ça ne dépend absolument pas de nous, malheureusement. Et croyez bien que l'avenir de mon fils et son bonheur n'a rien à voir avec les classements au hit parade, ni avec les jukebox, ni avec...
Je parle de ça parce que moi, ça me...
Ça vous révolte et moi aussi. Oui, mais moi aussi, vous voyez.
Et elle vous a littéralement protégée, quoi. C'est ce qu'elle raconte très bien.
Une vraie maman, oui. Exactement, oui. Ouais, ouais.
On a vu un moment de scène partagée avec Johnny. On va voir une télé partagée. C'était 10 ans après Cadillac pour 100% album que vous avez composé et réalisé pour votre père, qui devait s'appeler Tel Père, Tel Fils, c'est vrai ?
Enfin, c'était les noms proposés.
Donc oui.
Non, on ne va pas faire ça.
Et 100%, c'est une idée de...
Je pense que c'est on l'a pris de la chanson qui a existé avant de trouver le titre, donc on s'est dit ça représente bien
l'album. Sur ma fiche, il y avait écrit c'est encore votre mère, non ?
De quoi ? Pardon ?
Le titre 100%. L'idée
de
Sylvie Vartan. Ah
ben peut-être.
Bon alors la télé partagée, on va la voir. C'est une boîte à questions sur Canal.
Ah oui.
De vous deux.
Vous pouvez nous chanter le refrain de 100% s'il vous plaît ?
Vas-y.
Ah ouais, tu te souviens plus des paroles.
Non, il va falloir que je la réapprenne pour la tournée.
Des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face.
Ah, ça, c'est bien aussi, hein, franchement, c'est pas mal.
Ah, il y avait beaucoup d'humour, ouais. Heureusement. Hein.
Ouais,
on rigolait bien.
Après le succès de 100%, votre père vous avait demandé un nouvel album. Vous aviez commencé à écrire un titre qui s'appelle Le plus heureux des hommes. Resté plus de 20 ans dans votre disque dur et qui va finalement figurer sur votre prochain album. Donc l'ébauche de cette chanson, elle a 20 ans.
Non, pas les mots, la chanson.
L'ébauche.
Ah, l'ébauche, oui, pardon. Oui, l'ébauche, oui, oui, absolument. Oui. Ben, en fait, j'avais maquetté, quand il m'a demandé de recomposer un album pour lui après 100%. Donc j'ai une espèce de délit d'enthousiasme où je fais « Ok, super !» Et donc j'ai commencé à composer et au bout de 5 titres, je me suis arrêté finalement parce que je me suis dit que j'avais pas envie de remettre une deuxième référence sur le travail ensemble. Et donc, je l'avais appelé pour lui dire, écoute, non, on fera d'autres choses et tout, peut-être une chanson par-ci et par-là, mais tout un album, je préfère rester sur ce qu'on a fait. En fait, ces 5 titres ont été en sommeil sur un disque dur que j'ai retrouvé il y a 7-8 mois. Et en les réécoutant, je me suis dit, ce serait bien qu'au moins une d'entre elles existe, quoi. Donc, j'ai pris celle-là parce que c'est celle qui résonnait le plus à ce moment-là. Et donc, Lionel Florence et Patrick Guerrao a fait le titre. C'était un thème déjà que j'avais envie d'approfondir déjà à l'époque. Et donc, le texte existe depuis peu, mais la chanson depuis...
Album apparaître en juin prochain.
Exactement, le 16 juin, oui.
David, une petite tornade professionnelle, mais surtout personnelle. En 1995, vous devenez papa pour la première fois et vous décidez de mettre fin à votre carrière solo. Ça vous vaut l'admiration de Tony Scotti, votre beau-père.
He would give up his career for his kids. It's crazy, but it's admirable. You know, most very few people would make that choice. He's a hero for that.
Pour vous, c'était normal, tout comme de quitter les États-Unis plus tard après votre divorce. L'objectif, c'était de suivre vos filles, comme votre mère vous avez protégé, vous avez suivi toujours.
Bah oui, enfin mes enfants, c'est tout pour moi. Donc forcément, c'était juste pas pensable de vivre à 12 000 km de mes enfants. Elles étaient petites et tout, donc la question s'est même pas posée. J'ai dit que c'est vrai que j'avais entamé beaucoup de choses là-bas, mais bon. Je veux dire, dans la vie, il y a des choses plus importantes. Et puis, bon, on reconstruit des choses. C'est pas grave, finalement. Voilà. Donc, ce qui est grave, par contre, c'est de laisser les enfants vivre sans un des parents. Voilà. Donc, j'ai déménagé. Et puis, je suis redevenu français. Voilà, à cette époque-là. Parce que j'étais aux États-Unis depuis l'âge de 11 ans, quoi. Donc, ça faisait longtemps. Et voilà. Mais je n'étais pas déçu non plus de partir et de reconstruire quelque chose d'autre. Et donc... Non, c'était bien. C'était la bonne décision.
Paul, maintenir une vie de famille la plus normale possible avec vos enfants, ça aussi, ça a été un enjeu pour vous. Votre fils Victor, qu'on a reçu il y a quelques semaines, qui évoquait ses débuts de carrière dans le cinéma et sa notoriété grandissante, vous l'avez vécu comment ?
Bah, je la vis très très bien. Je suis très heureux pour lui. Et quand il a décidé de faire ce métier-là, je savais que c'est un métier qui est difficile parce que c'est un métier où vous remettez tout en question systématiquement à chaque fois, à chaque film. Et c'est une carrière qui peut s'arrêter tout de suite. Donc lorsqu'il nous a dit qu'il voulait être comédien, bien sûr, j'avais très très peur pour lui. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit d'aller faire justement une école de cinéma, d'apprendre un autre métier du cinéma. Parce que si jamais il ne pouvait pas réussir en tant que comédien, au moins il pourrait assouvir sa passion dans ce métier-là et faire autre chose. Donc mais heureusement, je touche du bois pour lui et sa carrière décolle très très bien et c'est un comédien fantastique.
Vous avez donc suivi, vous aussi, il suit vos traces et celles de son grand-père, mais vous aussi, vous êtes monté sur scène. En 2009, vous vous lancez dans le théâtre, Traitement de choc, puis Un oreiller ou trois, les deux mis en scène par Olivier Belmondo.
Ça change quoi de s'appeler Belmondo ?
Ça change pour les autres. Moi, ça me change rien, parce que moi, c'est le nom que je porte depuis que je suis né.
Ça met un peu la pression ?
Ah, ça met pas un peu, ça met énormément la pression.
Voilà.
Souper de Saint-Jacques.
À la vieux
pépette. Putain, ce qu'on va se régaler.
Dans le comique, ce qui est très important, c'est de dire les choses au moment précis et vraiment de la bonne manière. Et vous pouvez pas vous rattraper. Dans le sport, si vous ratez un tour, vous avez le prochain tour pour essayer de vous refaire. Là, vous ne vous refaites pas.
C'est un véritable tchouk-tchouk pouet-pouet. Enfin, comment on se qui parle ? Vas-y. C'est ce qu'il dit sur la...
En même temps, en F1, il ne faut pas trop se rater.
Non, on ne peut pas se rater non plus. Si on se loupe, non, ça c'est sûr.
Vous étiez encore sur les planches l'année dernière dans Boeing Boeing, la pièce de Marc Camoletti. Oui. Vous adorez ça, en fait ?
Ah mais j'adore le théâtre, j'adore le théâtre, j'adore jouer sur scène, c'est vraiment quelque chose de, sur lequel je prends énormément de plaisir. Et puis bon, puis cette pièce de Boeing Boeing, vraiment, on s'est amusé comme, comme des fous, c'est un plaisir de la jouer. Et c'est un grand guignol, parce qu'en fait, les gens voient la situation qui va arriver, et nous, on est censé ne pas être au courant, et on entendait les gens faire des commentaires comme lorsqu'on était enfant à Guignol, donc c'était un vrai plaisir.
Mais vous avez bossé pour monter sur les planches en 2009, vous avez pris des cours?
Bah bien sûr, non, j'ai fait 2 ans de course, c'est ce qui a été très difficile justement. Quand je décide en 2007 d'arrêter de courir et d'aller vers le métier de comédien, bah, et on ne devient pas comédien comme ça, surtout que j'avais mon père qui avait fait quelques années de conservatoire et de cours, donc je ne pouvais pas me dire je vais y arriver comme ça juste en m'appelant Belmondo justement, et j'ai été faire des cours, donc j'étais chez Pygmalion, et après avec Bruno Banon et Anouchette Bon, voilà, donc j'ai fait 3 ans de cours de théâtre avant de commencer. Mais juste petite parenthèse, quand j'ai joué la première fois à Un oreiller ou trois, j'ai toujours cette lettre de mon père qui me dit « Enfin, tu te tournes, tu deviens comédien, et tu verras, ça va bien se passer », ensuite, donc j'ai une très belle lettre de lui, où en fait il est heureux.
Il attendait que ça.
Il attendait que ça et il dit enfin tu t'es décidé. Voilà, il me dit enfin tu t'es décidé à jouer.
Oh, c'est magnifique. Ouais. Bon, bah, moi je vous conseille de voir David Hallyday, c'est le titre de ce documentaire, que j'ai un peu trop raconté, je me suis fait reprendre par la patrouille là.
Et Boeing Boeing.
C'est lundi 3 avril à 20h55 sur Canal Plus Doc, coproduit par Paul Belmondo, qui est aussi réalisateur de documentaires. Le nouveau single, Le plus heureux des hommes, est disponible depuis vendredi sur toutes les plateformes. Et le 16 juin, on attend avec impatience votre nouvel album, Boeing Boeing. Ce sera le 9 mai aux Folies Bergères, au profit d'une bonne cause.
Oui, au profit. En fait, on a fini la tournée en février à Lyon. Ouais. Avec Mécénat, on a décidé de faire une dernière représentation, un dernier tour de piste à Paris au profit de Mécénat. Donc tout le monde va jouer, bien sûr, remettre son cachet et ainsi de suite, le théâtre, les auteurs, et au profit des enfants. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir voir cette dernière fois de cette pièce qu'on a tous joué ensemble avec beaucoup de plaisir.
Ah, c'est bien.
Merci beaucoup, messieurs. On est heureux de vous inviter à passer à table.
Merci à vous.
Tout de suite après, ouais. Zoé et Bruno, j'étais à ça. Ah non, c'est pas fini, vous n'en avez pas fini avec moi.
J'étais à ça. Et avec ton petit cousin, ça se passe bien?
Ouais, ouais.
Mais t'es trop sympa de l'héberger. Franchement, t'as vraiment le sens de la famille.
Hé, t'es déjà debout?
Ouais, désolé, c'est ton parquet qui grince. Je suis pas tout seul, j'y vais.
Ah, ça marche avec ta copine de l'autre jour, alors?
C'est une autre copine, mais ouais, c'est cool.
Ah bon, ouais, encore une autre?
Oui, chut, tu vas la réveiller.
Ça me rend folle. Mon petit cousin qui ne ressemble à rien a une vie sexuelle de dingue.
Alors que toi, ou Walou, quoi.
Tu vas prendre ta douche? Je crois que ta copine y est déjà.
Je sais, je vais la rejoindre.
Tu vois, je le voyais pas ton beurre comme ça parce que il est mignon, mais bon, il est pas ouf non plus, non?
C'est invraisemblable qu'il les enchaîne comme ça.
Thomas, tu viens?
Ah, le devoir m'appelle.
Mais attends, il y a encore quelqu'un dans ta chambre?
Oui, elles étaient en train de faire la sieste.
Elles étaient?
J'arrive.
Thomas! J'ai complètement oublié de te dire, excuse-moi, ça m'est sorti de la tête. Benjamin va me ramener Victor un peu plus tôt, finalement, parce qu'il a plein de boutons rouges partout sur le corps, et donc on se dit qu'il a sûrement...
La varicelle? Bon, heureusement, je l'ai déjà eue, donc je vais pouvoir t'aider.
C'est vrai, t'as déjà eu la varicelle, toi?
Bah ouais.
Alors,
ouais.
C'est pas la varicelle qu'il a. T'as déjà eu la roséole?
Non, la roséole, ça me dit rien.
Ah bah voilà, c'est ça, il a la roséole. Donc je pense qu'il va falloir que tu partes, parce que la roséole, quand on l'attrape adulte, ça... Ça rend impuissant.
Je suis un monstre?
Non, c'est lui qui me plaît.
J'étais à ça d'avoir le sens de la famille.
Ah. Tout de suite.
Paul, David, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand Chameroy et d'un homme fascinant qu'on rêvait de vous présenter, un herpétologue, autrement dit, un spécialiste des reptiles qui vit dans sa maison près de Nantes, en colocation avec 400 espèces de reptiles, serpents, araignées, scorpions, iguanes, lézards, insectes en tout genre, mais surtout avec un couple d'alligators.
Oui. Arrête de râler. Tu arrêtes. Oui, tu arrêtes. Arrête. Il cherche pas à mordre.
Ouais.
C'est du cinéma. C'est du cinéma. Et tu arrêtes ton cinéma.
Oui, il va bien, mon bébé. Il va bien. Arrête.
Hein? Tu arrêtes de râler. T'as eu peur avec Gator qui fait du bruit? Hein?
Mais non, faut pas. Voilà, calme-toi, mon bébé. Oui, voilà. Hein?
Sa vie s'entend.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je trouve pas de filles qui veulent m'épouser, parce que l'héritage, ça les intéresse
ça
pas
les
trop.
Ça les intéresse pas.
Bonsoir
ça
Philippe Gillet.
Ça m'arrange.
Bonsoir cher Philippe Gillet, ravi de vous accueillir. Votre vie est dingue. On a ouvert des yeux ronds comme ça, comme des billes, en découvrant dans Paris Match votre drôle de vie avec Ali et Gator. Voilà. Ces deux gentils crocos qui partagent votre vie depuis 23 ans. Et quand je dis qu'ils partagent votre vie, je pourrais même dire qu'ils partagent parfois votre lit, parce que je ne sais plus si c'est Ali ou Gator qui a peur de l'orage et qui vient se réfugier dans votre lit.
C'est ça. Et je vais même vous dire que quand il y a eu le tsunami à l'époque, pendant 3 jours avant le tsunami, ils étaient dans ma chambre et ne voulaient pas en bouger.
Bon, d'accord.
Et l'autre qui a peur, effectivement, il vient se coller contre moi parce qu'il a peur de l'orage. Et pourtant, c'est lui le patron, c'est lui le chef.
Et vous n'avez pas, des... ah oui, pas des marques d'oreiller, mais parfois des marques de...
Si, des marques de dents.
Ah, quand
oui,
même,
mais...
le matin au réveil.
Ça arrive, voilà.
Tout est normal.
Tout est dans la connaissance et l'acceptation des différences, et c'est gagné.
Ça peut faire peur, mais vous dites qu'ils vous obéissent presque mieux qu'un cocker, quoi.
Alors, on a... non, c'est pas ça, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est ça, le problème. Et... pour connaître, pour lutter contre la peur, il n'y a qu'un médicament qui est très efficace. Je vous le donne, c'est cadeau, c'est la connaissance. Si vous rentrez dans l'intimité de l'animal, eh bien, tout doucement, vous allez vous rendre compte que cet animal, finalement, c'est un animal à part entière et non pas un truc dégueulasse, horrible, qui fait peur. Tout simplement.
Très bien, Philippe. On va essayer d'appliquer tout ça. La bonne nouvelle, surtout, c'est que ça a un tout petit appétit, les crocos, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'ils mangent seulement une quinzaine, voire une vingtaine de poulets dans l'année.
Dans l'année,
seulement.
Oui, bien sûr.
Donc, en plus, c'est économique.
Et les alligators hibernent en plus. Donc, pendant 6 mois, ils ne mangent plus.
Ah oui, c'est très pratique.
Vous voyez,
bon, sur ce, je vous présente notre chef de la semaine qui a quelques alligators à nourrir. Julien Raffanel, le chef du restaurant La Grande Georgette à Reims. Alors, on m'a dit, c'est beau, c'est parce que tu n'as rien fait.
Non.
Qu'est-ce donc, que c'est, cher alors, Julien?
Du Saint-Pierre. Donc, on essaie de garder le maximum du poisson, des légumes à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc, on a fait les petites joues en tartare, dans des petits bols qui sont en face de vous. Et on a le Saint-Pierre qui est juste confit et poudré avec de l'algue. Qu'on retrouve
qu'est-ce
également
que c'est
dans bon. Le petit bol.
C'est délicieux.
Bravo. Et des petits millefeuilles de pommes de terre.
Voilà. Merci, chef.
Bravo.
Merci à vous.
Cette passion des reptiles, Philippe, elle vous vient de l'enfance. Vous avez grandi en République centrafricaine.
Voilà, pendant une trentaine d'années.
Vous avez appris le métier de garde-chasse.
Entre autres, mais mon boulot, c'était surtout, enfin, mon plaisir. Et j'ai toujours été comme ça. Tout ce qui n'est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, m'a toujours passionné. Donc, j'ai vécu avec les pygmées, avec les mbororo, les peuls, dans toutes les ethnies du monde. Et... j'avais pas de PlayStation, donc mes jouets, c'était des scorpions, je mettais dans ma poche. Et alors, évidemment, le personnel n'était pas très d'accord de fouiller dans les poches parce qu'il y avait des scorpions de chez l'enfant qu'il a mis dans sa poche. C'est toutes les petites histoires, mais il y a des tas d'histoires là-dessus.
Vous rentrez en France, vous n'imaginez pas vivre sans animaux et sans ces animaux exotiques avec lesquels vous avez passé beaucoup de temps pendant tout le début de votre vie. Mais pourquoi pas les singes et les araignées? Pourquoi les reptiles?
Alors les reptiles, d'abord, ça n'a pas besoin de place. Ça vit dans un trou, oui. Ça sort pour manger et de risquer d'être mangés eux-mêmes. Donc oui. Ils sont très discrets. On ne les voit jamais. Quand vous promenez dans la forêt, il y a les vipères partout. Oui. Mais vous ne les voyez pas, mais elles vous ont vu. Et donc, quand on rentre en France, grâce aux scientifiques que j'ai rencontrés, que j'ai guidés dans les réserves pour le serpent, j'ai appris les connaissances, parce que je suis autodidacte. Hein. Et c'est comme ça qu'en France, je me suis retrouvé ingénieur conseil à la Cité des Sciences à la Villette, dans le vivant. Il y avait le pont vert à l'époque, il y avait des tas de choses. Et je me suis retrouvé là-dedans. Et je voyais que les gens, on avait des terrariums magnifiques, avec en braille, en français, en anglais, c'était extraordinaire. Et les gens venaient plus pour voir et se créer le frisson et faire le frisson à sa copine que pour apprendre. Et c'est là que j'ai créé l'association InFaune, Information sur la Faune. Et depuis 30 ans, on amène des messages en acceptant. Et c'est là que il fallait faire pour moi de la connaissance gratuite au public. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. J'ai traité avec les galeries marchandes, l'association des commerçants payait mon association. Et tous les bénévoles qui travaillaient avec leur cœur et non pas avec de l'argent, eh bien, pendant 15 jours, posaient des vacances et venaient dans une grande surface discuter avec les gens. Et on avait des grands modules de pédagogiques interactifs, etc., qu'on a créé tout ça.
Donc avec ce label InFaune et une vingtaine de bénévoles, je crois, vous faites de la pédagogie, vous essayez de démystifier les animaux, leur dangerosité, la familiarité qu'on peut avoir avec eux, etc. Notamment sur TikTok avec une vidéo. Alors, on va voir. On va regarder.
Cobra, là.
Ah oui, il est magnifique.
Lui, le mâle, il protège.
Ok.
Il protège la femelle en disant...
t'approches pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu pareil.
Il bombe le torse, il bombe.
Voilà, il bombe le torse. Tu vois, c'est des cobras à lunettes, ce qu'on appelle. Alors, tu vois, sa réaction, elle est très simple. Il va faire croire qu'il a des yeux très gros, donc c'est une grosse bête, je peux pas la manger. Là, j'inquiète parce que j'ai tout enlevé. Il n'est pas content du tout. Enfin, on va lui remettre sa cabane déjà. Il va rentrer dedans en vitesse. Tiens. Non, non, ta cabane. Non, arrête, arrête de paniquer. Là, il a retrouvé sa maison, il a retrouvé sa gamelle d'eau. Donc là, ça y est, il va se calmer.
Les serpents sont sympas.
Oui, parce qu'ils font des brouffes. Ils font comme nous, quand ils ont peur, ils se défendent. Mais dans la nature, ils se sauvent. Il n'y a pas d'animaux qui attaquent l'homme. Il y a l'homme qui attaque l'homme, oui, mais l'animal n'attaque pas l'homme. C'est ça qui est extraordinaire. Et pourquoi je me suis mis sur TikTok, alors que j'ai 70 ans, je suis sur TikTok pour les jeunes? Parce qu'un jour, j'ai fait une école à Paris où j'ai montré des animaux. Et il y avait des enfants qui me suivaient. Monsieur, on vous suit. Ben, je dis non, restez dans vos classes. Je vais pas non, sur TikTok, on vous suit.
Alors, attendez, attendez. Ah, très bien.
Et là, comme on n'a plus le droit de faire d'exposition mobile, puisque la cause animale, les animalistes, non, c'est pas bien, il faut les laisser. Mais les animalistes, c'est pas l'animal, il faut protéger. Il va mourir comme vous et moi, un jour ou l'autre. Il faut protéger leur environnement. Vous voyez un peu plus loin que le bout de votre nez. C'est là qu'il faut travailler. Et sur TikTok, je me suis dit, puisque c'est les enfants qui sont sur TikTok, eh ben, j'ai commencé à faire des vidéos pédagogiques, très simples, pour les enfants, parce que c'est eux à qui on va donner cette planète. Il ne faut pas qu'ils fassent les conneries qu'on a fait nous, excusez-moi du gros mot, mais ce qu'on a fait sur la planète aujourd'hui, où on en est, non. Il faut qu'ils s'habituent à vivre en symbiose avec les animaux. Même les moustiques, une petite claque de temps en temps, mais il faut vivre en symbiose avec notre nature et on pourra peut-être survivre et notre descendance pourra peut-être survivre.
Vos 400 reptiles, ce sont des animaux qui ont été abandonnés ou qui étaient dans un trafic. Il y a aussi des animaux exotiques qui se glissent dans des cargaisons, comme on va le voir, cet iguane retrouvé dans un conteneur de bananes en provenance de Kourou. On a les images.
Alors voilà un petit iguane, vous voyez, alors il est très agressif. Voilà, il donne des coups de queue, il n'est pas content du tout. Il est encore un peu sauvage, tout doucement il s'habitue. Mais vous voyez, doucement, il faut lui parler vraiment doucement, aller tout doucement avec lui.
Ils sont arrivés dans des containers, on les a retrouvés et on vous les confie souvent, mais en fait on ne peut pas les renvoyer, donc il faut s'habituer à les avoir ici.
On n'a pas le droit de les renvoyer dans leur pays, pour la bonne raison, les lois sont bien faites, elles sont quelquefois mal appliquées ou mal comprises, mais elles sont très bien faites. Si vous prenez un animal, vous l'amenez chez vous et vous le relâchez dans la nature, il va amener des maladies humaines, il va transmettre à un groupe d'animaux qui va peut-être détruire. Donc les lois sont bien faites. Donc ces animaux maintenant qui sont chez nous, au lieu de nous les garder en disant ça nous fait plaisir, on les a décidé qu'on leur avait donné le titre d'ambassadeurs. Ils sont là pour représenter leur espèce, c'est pas des Pokémon, ils n'ont pas besoin d'une usine nucléaire. Ils ont simplement besoin d'une forêt. Protégez vos forêts et vous aurez plein d'animaux. Et c'est génial de vivre en symbiose.
Bravo, bravo Philippe Gillet. Non, je rappelle le titre
c'est une
de
passion.
Le nom de votre association, InFaune, information sur la faune, œuvre pour la protection et la sauvegarde des animaux de la faune sauvage. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui
à dîner, on conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de...
Ce drôle d'animal.
D'un petit iguane. C'est pas agressif, hein.
Bonsoir à la une de ce 29 mars. Avec du son.
La ville de France est suspendue. Le ramassage des déchets va donc reprendre dans 10 arrondissements.
Du côté des poubelles, fin de la grève à Paris.
C'est un grand soulagement.
Ouais. C'est un soulagement.
C'est plus qu'un soulagement.
C'est la fin. Le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin.
C'est pas grave, t'en retrouveras des ordures, mon Zactus. Ça fait plaisir aux enfants, on est mercredi. Merci pour Juliette. Et si en ce moment, on parle beaucoup retraite et manif, il ne faudrait pas oublier les autres combats du moment, tout aussi importants.
Mais là, du coup, l'après-midi, je pense que je vais être contente d'être en robe, vraiment. Ça va changer d'habitude.
On a marre des suites.
Ouais, des pantalons aussi.
Mais c'est vrai, ça. Il y en a marre des pantalons. On veut des pantacourts. Ah non, en fait, c'est moche. Donc annule et remplace. Suite de notre feuilleton du moment, le 53e congrès de la CGT à Clermont-Ferrand, dont l'ambiance ressemble de plus en plus à celle d'une boîte de nuit.
Il y a une Clio blanche. Immatriculation EQ313 du département du Gard qui a ses phares allumés sur le parking, donc il faut aller l'éteindre.
Voilà, donc on l'éteint et on rappelle que c'est gratuit pour les filles jusqu'à minuit. Et pour le reste, les séances durent toujours aussi longtemps. Mais oui, mais c'est ça, ça continue de divaguer.
Je fais une intervention qui n'a pas un rapport en fait avec ce débat.
Merci Patrick Cohen. Non, alors pour gagner du temps, ils ont donc mis en place un chrono, 4 minutes par prise de parole, pas plus. Donc certains ont une bonne technique pour gruger.
Je vais vraiment essayer de respecter le temps imparti. Donc si vous voyez que je commence à accélérer le rythme de la parole, c'est que je ne suis pas encore arrivée au bout. Donc, en première ligne des mobilisations, le 8 mars à Toulouse, lors d'une mobilisation unitaire de toutes les organisations syndicales et associations féministes, nous étions 25 000 dans la rue.
Ne t'étouffe pas.
Ouais, j'essaye d'aller
mais
vite.
Mais essaie de conclure
avec une forte présence.
Voilà. Un congrès de la CGT qui ressemble également de plus en plus à C'est à vous. C'est aussi précis que notre émission.
Oh. À ma gauche, Amandine Clairet. Ah pardon, ça a changé. Bon, on me l'a pas dit. Donc Audrey Hougan et de syndicat THCB.
On a un petit temps culturel, une danseuse qui va nous faire une petite performance. Ça va être très court, ne vous inquiétez pas. Et je pense que ça va être bien. Alors, je ne connais pas son nom et sa compagnie malheureusement, mais elle est invitée à venir sur scène.
Bon allez, c'est pas grave. Tout de suite, CGT à ça, Zoé Bruno. C'est GTA,
c'est bien.
À part ça, le contexte n'est pas morose pour tout le monde. Regardez Patrick Pouyanné, PDG de Total, salaire qui a augmenté de 23% par rapport à 2021. Belle année pour mon Patrick. Et ce matin, François Bayrou a été interrogé à ce sujet.
Ça vous inspire quoi? C'est normal, c'est bien, c'est trop, c'est mérité, c'est indécent?
C'est une discussion que vous avez sur votre plateau chaque fois qu'on aborde la question du salaire des sportifs.
Pas le débat.
C'est pas le monde dont je rêverais. C'est pas le monde idéal.
Mais pourquoi François Bayrou ne veut-il pas se mouiller dans le dossier Pouyanné?
Il se trouve qu'en plus, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a une très grande partie de ses activités à Pau.
Et qui est le maire de Pau? François Bayrou, encore une enquête rondement menée. En bref, nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma. Il n'a pas l'air dingue, le dernier Spielberg.
Je pense que c'est une bonne idée, que c'était nécessaire. Moi, je suis un soldat du dialogue social.
Sa mission, partir au front pour dialoguer avec Laurent Berger, Philippe Martinez et tous les gens qui ne sont pas d'accord. Il faut sauver le soldat du dialogue social. Ouais, pas dingue. Et oui, parce que en ce moment, on l'a lu dans la presse, le gouvernement cherche une idée de génie pour sortir de la crise. Ils ont qu'à aller chez Jiffy. Excellent, on se marre, merci à tous. Mais non, mais oui, non, mais je savais ce que je faisais, je le savais. Comme si le contexte n'était pas déjà si compliqué que ça pour eux, ils ont choisi d'envoyer leur meilleur lieutenant en interview, Franck Riester, qui a tenté de jouer à ni oui ni non, ni retraite. C'était le mot interdit. Ah, le meilleur.
Je crois que c'est une bonne chose qu'elle puisse échanger avec les syndicats sur tous les sujets qu'ils souhaiteront échanger.
Vous aussi sur la réforme des retraites?
Sur tous les sujets.
Ouais, il a gagné, il n'a pas dit retraite. Violence policière aussi était interdite. Il a failli perdre, mais il s'est rattrapé. Tel un chat qu'on a balancé du 7e étage d'un immeuble.
Ce qui est certain, c'est que s'il y a des actes qui sont répréhensibles de la part des forces de police et de gendarmerie...
Oh, bah alors là, je dis chapeau l'artiste. En revanche, quand on lui demande pourquoi la main est tendue au syndicat seulement maintenant et pas il y a 2 semaines, ça se complique un peu pour Franck Riester qui a fait un peu l'exercice.
Pourquoi avoir refusé de les recevoir il y a une dizaine de jours et les recevoir aujourd'hui?
Écoutez, vous savez, une chose après l'autre, là, il y a...
Super! Allez!
Un moment d'échange.
Encore!
Entre les organisations syndicales et la Première ministre, laissons...
On est bien!
...se passer ce moment-là et n'essayons pas de trop... Vous savez...
On regarde Marie.
Vous êtes dans votre rôle.
Ah, vous m'avez piégé. Allez, on passe aux abdos. Et puis dans la série, il est des phrases qu'on n'aurait pas imaginé être prononcées un jour.
Il fallait se frotter les yeux pour lire cette dépêche qui est tombée à 6h du matin. Emmanuel Macron
a accordé un entretien au jeune lecteur de Pif Gadget.
Alors je vais quand même vous citer une interview, excusez-moi, qu'il a donnée à Pif le chien.
Vous étiez plutôt Orcelle. Pif ou Mickey?
Moi j'étais plutôt Mickey.
Ce qui est pratique, ça donne lieu à de sacrés bons débats en plateau. Et alors, si maintenant le président de la République donne des infos importantes dans la presse jeunesse ou spécialisée, ça va se compliquer. Petite astuce pour que tout le monde comprenne tout du contexte actuel et ne loupe rien, je me suis procuré le plan presse du président. Il dévoilera le plan immigration dans le journal de Mickey, puis détaillera ses projets pour la France dans Cheval Magazine. Et enfin, il adressera un message d'apaisement au syndicat dans Pêche de mer. Voilà, et on referme... Non, riez pas, on referme ces actualités avec une image qui m'a fendu le cœur, Anne-Elisabeth.
Il y a des émissions dans lesquelles on ne veut pas me recevoir.
Ah bon, lesquelles?
Oui, oui. C'est à vous, je peux
ah
le
bon
dire. Oui, c'est à vous, je le dis.
Pourquoi?
Voilà. Eh bien, parce que je ne suis pas assez... apparemment, je ne rentre pas dans leur ligne éditoriale.
Alors, vous me connaissez, Babette, je déteste le conflit. Vous vous souvenez peut-être de l'émission « Il n'y a que la vérité qui compte » avec Bataille et Fontaine. Je demande à ce qu'on déclenche le dispositif médiation. C'est l'heure de « Au fond du couloir à droite ». Vincent Niclot, bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Vous êtes en coulisses, est-ce qu'on peut avoir le retour de Vincent Niclot en plateau, s'il vous plaît? Quelqu'un a un message à vous adresser, vous imaginez peut-être de qui il s'agit. Pour en avoir le cœur net, je vous propose, je vais vous demander pardon, de suivre Somme. La vérité est au bout du couloir, au fond à droite.
ça va aller, merci.
Vincent, derrière ce rideau, une personne a quelque chose à vous dire. Je vous propose de l'écouter.
Vincent, c'est Anne-Elisabeth. Je vous ai entendu, ça m'a peiné, parce que c'est un affreux malentendu, Vincent. Depuis des années, j'essayais de vous contacter, mais en fait, je me suis rendu compte que j'appelais Guillaume Niclot, le réalisateur. je suis tête en l'air, vous le savez, C'est à vous est une émission qui est ouverte à tous les artistes. On accueille bien Bertrand Chameroy depuis des années, si ça, c'est pas une preuve. Alors, si vous êtes d'accord, je vous demande de bien vouloir ouvrir le rideau.
Vincent, est-ce que vous acceptez d'ouvrir le rideau?
Non. Oui.
Ah venez, Vincent.
Merci.
Eh ben, voilà. Tout est bien, qui finit bien.
Vincent Niclot, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir, ça Vincent.
Je me mets là?
Oui, alors, regardez.
Bonsoir à tous.
Bonjour. Ah, j'y ai pas touché en pensant
oh
à vous.
Ça savez recevoir.
Voilà, c'est cuisiné par notre chef, dont Julien.
Bravo, bravo.
J'ai oublié le nom. Bon, Vincent, tout va mieux?
Oui, super. Mais moi, tout allait bien, en vrai. Hein.
C'est vrai?
Ça va encore mieux maintenant.
Ben voilà.
Plus, donc, j'ai un bon plat.
Donc vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas reçu sur le plateau de C'est à vous.
Exactement, exactement.
D'autant qu'on a le plaisir de parler d'Opéra Celte, votre dernier album qui est sorti le 31 mars dernier.
Non.
Et donc,
qui va sortir là?
Je suis
sûr que ça ferait un an qu'il est sorti, donc on va retirer le 20 tout de suite, hein, Elisabeth.
Il sort le 31
mars. Je
suis
quand même dans l'actu. Il sort après-demain.
Vendredi, exactement. Et alors, le concept de cet album, cher Vincent?
Comme son nom l'indique, je revisite la musique celtique avec un peu ma voix de ténor. Voilà, donc j'ai repris des grands standards du monde celte avec des cautions celtiques comme Dan Arbraz, Soldat Louis ou encore Mano sur la tribu de Dana. Ça, c'était un petit kiff d'ado, parce que j'ai toujours adoré ce titre. Et derrière, sur son rap, j'ai fait des vibes opératiques. Je me suis dit qu'il allait m'envoyer bouler. Et finalement, il a adoré et on l'a fait. Voilà, on l'a recréé.
Et vous serez en tournée dans les églises et les cathédrales de France, dont le 20 juin à l'église de la Madeleine à Paris.
Oui.
Est-ce que vraiment vous avez
pas de l'année dernière.
Non, non. Oui, de cette année. Est-ce que vous avez vraiment envisagé de ne pas ouvrir le rideau, Vincent?
Mais non, moi je suis pas comme ça. Hein. Moi je suis dans l'amour, je suis pas dans la guerre.
Hein. D'accord.
Bah voilà.
Oui.
J'ai fait du mieux que je pouvais, mais visiblement c'était pas.
Merci d'avoir joué le jeu de cette réconciliation médiatique. Merci beaucoup, cher Vincent. Bravo, Bertrand.
Je vous en prie, demain je vous réconcilie avec une autre personne.
Ah oui, ouais. Tous les soirs. Mais j'ai pas autant d'ennemis, c'est pas possible.
Ah si.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez bien rester sur France 5, parce que je suis pas encore fâchée avec Augustin Trappenard, mais c'est possible. Augustin Trappenard, la grande librairie spéciale ce soir consacrée aux 80 ans du Petit Prince, le héros de Saint-Exupéry. Et si vous voulez bien vous tourner vers Soraya pour saluer nos téléspectateurs, voilà, ne faisons pas la guerre, faisons l'amour.
Exactement.
Bonne soirée sur France 5, moi j'ai du pain sur la planche. Demain, vive la mort en direct.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.